Bonsoir à tous. Alors, ce soir, dans ce grand groupe, on a choisi un sujet un petit peu de société, la question de l'écologie, parce qu'on s'est dit que dans votre formation, il était bon qu'on aborde aussi d'un point de vue chrétien des grands sujets de société dont on parle souvent, et dont on parle souvent en sachant plus très bien d'ailleurs comment et pourquoi on utilise ces mots. Je pense qu'à l'école, vous entendez beaucoup parler avec une dimension moralisante. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'était la raison d'ailleurs pour laquelle on a choisi ce titre un peu décalé. L'écologie, faut-il vraiment sauver les pingouins? Donc je remercie Don Louis Gabriel d'avoir pris le temps de préparer cet enseignement pour vous montrer que l'écologie, c'est quelque chose de beaucoup plus large que voilà, le simple tri des déchets. Et c'est d'autant plus important que vous savez que dans l'actualité, où l'on défend beaucoup l'écologie, la nature, eh bien il y a une nature qu'on ne respecte plus. C'est la nature humaine. Merci beaucoup, Louis Gabriel, pour cet enseignement.
Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui présente l'encyclique du pape François. Là, d'autres aussi, vous avez dû en entendre parler. Le pape François, il y a quelques années, s'est emparé du sujet de l'écologie, a donné un message chrétien rapport à ce sujet. Donc, rapide vidéo qui présente la question. Alors pour introduire notre sujet, je vous propose on reparlera de cette vidéo, de la phrase « tout est lié », on va en reparler tout au long de l'exposé, mais je vous propose déjà de désamorcer quelques mines en parlant de trois préjugés, de trois idées reçues en quelque sorte liées à l'écologie. La première, c'est « il y a trop d'humains ». On entend souvent ça, « il y a trop de monde sur Terre, on est trop nombreux, il faut arrêter de faire des enfants ». Donc ça, on va en parler. Comment on peut répondre à ça comme chrétien? Est-ce que c'est juste de dire ça? Deuxième idée reçue, l'homme est une menace, avant tout une menace pour l'environnement. L'homme, ça pollue, ça détruit, ça gaspille, ça détruit, voilà. Donc il vaut mieux un monde sans homme. Le monde serait meilleur s'il n'y avait que des animaux. Comment on peut répondre à ça comme chrétien? Troisièmement, bien sûr, être chrétien. Est-ce que être chrétien, c'est simplement trier ses déchets? Comment un chrétien, comment combiner le fait d'être chrétien et l'écologie? Est-ce que ça se résume à ça? On entend souvent parler de ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Quelle est la vision chrétienne de l'écologie, présentée notamment par le pape François dans l'encyclique? Alors pour commencer, on va commencer par la base, c'est-à-dire pour réfléchir sur l'écologie. Déjà, je voudrais insister sur le fait que voilà, c'est un sujet dont vous entendez beaucoup parler. Et parmi vous, il y a sûrement des opinions différentes. Peut-être qu'il y en a que ça intéresse vraiment, qui vraiment sont curieux de ce sujet, qui veulent essayer de changer les choses, etc. Peut-être qu'il y en a d'autres, quand ils entendent parler d'écologie, ça les saoule. Quand ils en ont marre d'entendre parler de Greta Thunberg, etc. Et donc voilà. Certains en ont ras-le-bol, certains ça les intéresse. Donc on va essayer de prendre, pour commencer, un peu de hauteur. On va commencer par parler de l'écologie en partant de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Que dit la Bible sur le rapport, en fait, entre l'homme et la création? C'est bien ça le cœur de la question de l'écologie. Alors avant de parler de la Bible, vous avez déjà eu ça, mais je voudrais juste faire une petite précision sur le rapport entre la Bible et la science. Vous savez que la Bible, ce n'est pas un récit scientifique. Ce n'est pas un récit qui répond à la question comment. La question comment le monde s'est fait. C'est plutôt un récit qui répond à la question pourquoi, qui utilise parfois des récits imagés pour nous aider à comprendre le pourquoi des origines, le pourquoi du rapport entre l'homme et la création, comment, enfin pourquoi l'homme est arrivé sur la terre, etc. Donc c'est important d'avoir ça en tête quand on lit la Bible. Alors, je vais vous lire un passage de la Bible. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Il les créa, homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Donc déjà, il y a une idée essentielle qui transparaît dans ce texte, c'est que cela était très bon. On va y revenir. Il y a quatre choses à retenir de ce texte. Le premier, c'est que dans la création, tout est bon. Tout ce qui est créé, est fait par Dieu, est voulu par Dieu, est bon. Après, on va voir la question du mal. Mais au départ, Dieu a créé un monde parfaitement bon. Il n'y avait pas de mal dans le monde, vous savez, il n'y avait pas la mort non plus. Adam et Ève, au départ, ils étaient immortels. avant le péché originel. Ensuite, la terre nous précède. Dieu a créé la terre avant de nous créer nous. Et elle nous est confiée par Dieu. Ce mot confié, il est hyper important parce que quand on réfléchit au sens du mot confié, on comprend qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Elle ne nous appartient pas, la terre. Elle nous précède, elle nous est confiée par Dieu. On doit en prendre soin. Ensuite, l'homme fait partie de l'environnement, mais non seulement il en fait partie, il est le seul qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ok ? Et donc l'homme, ce n'est pas un élément parmi d'autres de la création. C'est le sommet de la création. La création, c'est un écrin dont l'homme serait le bijou. L'homme, c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. Ok ? Très important de retenir ça. On n'est pas à égalité avec les autres créatures. Ça ne veut pas dire que les autres créatures n'ont pas de dignité, pas de valeur, mais on est au-dessus. On a une dignité particulière parce qu'on est à l'image de Dieu. Alors, maintenant, l'histoire du salut. Bien, vous savez ce qui s'est passé après. Au départ, harmonie initiale, le monde créé était parfait au départ. Et puis, il y a eu le péché originel, vous connaissez l'histoire, Adam et Ève, qui a apporté une série de ruptures, plein de ruptures. 4 ruptures principales après le péché originel. La première rupture, c'est entre l'homme et Dieu. L'homme s'est mis à avoir peur de Dieu. Depuis le péché originel, ça arrive de nous-mêmes qu'on ait peur de Dieu. Alors qu'au fond, on sait qu'il est bon. Ensuite, dans l'homme lui-même, en l'homme, il y a un conflit. En nous, en chacun de nous, il y a un conflit entre le bien et le mal. Et puis, entre les hommes, bien sûr. Adam et Ève se disputent. Et ensuite, ce qui intéresse notre sujet, c'est ça. C'est entre l'homme et la création. La création devient hostile. Et l'homme cherche à la dominer, voire parfois à la détruire, depuis le péché originel. Vous voyez, c'est ça la racine du problème de l'écologie, de la question écologique. La destruction de la création, elle n'a pas ses racines dans la révolution industrielle depuis qu'on a construit des usines. Hein. C'est bien plus ancien que ça. C'est dès le début de l'humanité, l'arrivée du mal dans le monde. Donc, il y a un lien direct entre le péché et la destruction de l'environnement. Vous voyez, c'est ça qui... Il faut absolument prendre la hauteur quand on réfléchit à cette question de l'écologie. D'ailleurs, le texte de la Genèse dit « Maudit soit le sol à cause de toi ». Il commence à y avoir un conflit entre l'homme et la nature. La nature devient hostile et l'homme la détruit. Et donc, s'il y a un lien direct, si le péché, c'est la cause de la destruction de l'environnement, ça veut dire que pour résoudre ce problème de l'environnement qui est en train de se détruire, il faut aborder le problème à la source. Vous voyez pas bien, il y a marqué « Les remèdes vont aussi aller ensemble ». C'est en même temps qu'il faut lutter contre le péché en général, contre le mal dans le monde, pour sauver la planète. Il faut remonter en amont, vous voyez, du problème. Il faut faire les deux. Pas seulement dire « Je veux sauver la planète, mais enfin, après, ma vie morale, ça ne me regarde que moi. » Non, les deux vont ensemble. Oui. Ok. Alors maintenant, conclusion sur l'écriture. Donc, le monde nous est confié par Dieu. Donc, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Il ne nous appartient pas. Et ce n'est pas de la matière qu'on peut modeler à notre gré. On ne peut pas faire ce qu'on veut du monde puisqu'il nous est confié par Dieu. Mais l'homme est quand même le sommet de la création. Et en fait, le fait de prendre en compte Dieu dans la question écologique, il faut absolument prendre en compte Dieu, parce que si on enlève Dieu de l'équation, ça peut entraîner pas mal de dégâts, justement. Alors on va voir les deux positions un peu extrêmes quand on considère la question de l'écologie sans Dieu, ce qui est un peu le drame de notre monde. Souvent, les gens qui nous parlent d'écologie, c'est des gens qui souvent ne croient pas en Dieu. Et donc ils n'ont pas cette hauteur de vue, justement. Et ça peut entraîner deux dérives possibles. Deux extrêmes si on oublie Dieu. Premier extrême, l'écologie, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Je veux dominer, c'est le désir de toute puissance de l'homme, je veux dominer absolument la création. Je veux en faire ce que je veux, la création, j'en fais ce que je veux, tant que ça me rapporte du profit, du plaisir, tant que je peux consommer à mon gré, etc., je peux en faire ce que je veux. Vous voyez, ça c'est un premier extrême. Vous savez, au moment du péché originel, vous savez ce que le serpent a dit à Adam et Ève, hein. C'est pour ça que ça vaut le coup de relire ce récit de la Bible, parce que en fait, ça dit beaucoup de choses sur ce qu'on vit aujourd'hui. Le serpent dit à Adam et Ève, après lui avoir expliqué l'histoire des arbres du jardin, etc., il dit « Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. » Ça, c'est la grande tentation depuis toujours, depuis Adam et Ève, c'est la grande tentation de l'homme, c'est de se faire Dieu, de devenir Dieu lui-même. Et Dieu, c'est lui qui possède la terre, c'est lui qui possède tout le monde. Eh bien, quand l'homme veut se faire Dieu, il dit « Je possède la terre, j'en fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de la création. » Vous voyez ? Donc c'est une tentation qui est antique, qui vient du péché originel. Vous serez comme des dieux. Je fais ce que je veux de la création. Nous, on est plutôt gâtés, on a ce qu'il faut à manger, etc. On n'a pas trop de problèmes climatiques, on a un climat qui est relativement correct. Et donc, on fait un peu ce qu'on veut avec la création. On s'en fout, on n'en subit pas trop les conséquences. Vous savez, par exemple, on parle beaucoup de la question de l'immigration. En ce moment, il y a beaucoup de vagues de migration qui arrivent en Europe, etc. Mais c'est lié à la question écologique, en fait. C'est parce que les pays riches du nord du monde, les pays du nord consomment beaucoup, polluent beaucoup, etc. Ça crée des catastrophes climatiques dans les pays du sud. Et donc, ces gens-là sont obligés parfois de migrer, de changer de pays parce que leur pays devient invivable. Donc, vous voyez, indirectement, en fait, on subit les conséquences de nos actions. Bon, ça, c'est à l'échelle très générale. Mais ça fait réfléchir, je trouve, à la question des migrations. Et donc, quand je fais ce que je veux, eh bien, je cherche à dominer en même temps, quand le pape François dit que tout est lié, je cherche à dominer en même temps la nature, c'est-à-dire à détruire la nature, peu m'importe si je me fais du profit, si j'ai ce que je veux à manger, etc. Et en même temps, les autres. J'exploite les autres, j'exploite les plus pauvres, etc. Peu m'importe, je pense qu'à moi. En fait, c'est le problème de l'égoïsme. C'est-à-dire, je pense qu'à moi dans mon rapport à la nature, je pense qu'à moi aussi dans mon rapport aux autres. Je suis prêt à les exploiter tant que ça me rapporte ce que je veux. Et même, on se met à exploiter, dans cette logique-là de domination absolue, notre propre corps, en fait. On veut faire ce qu'on veut. Même notre propre corps, on se considère comme une matière. En fait, j'ai pas envie d'avoir un sexe masculin, donc je vais changer de sexe. J'ai pas envie d'avoir tel corps, donc je vais faire une opération, je veux changer de corps. Vous voyez, on considère notre corps même, jusqu'à notre propre corps, comme de la matière qu'on peut changer à notre gré. C'est encore une conséquence de cette volonté de domination absolue. Et tout ça, généralement, c'est dans un but de faire un maximum de profit, de gagner un maximum d'argent, de se faire un maximum plaisir, etc. Vous voyez ? Souvent, cette volonté de domination absolue, elle est accompagnée d'un asservissement à la technique. C'est-à-dire que ce qui ne marche pas, quand j'ai un smartphone qui ne marche pas, je le balance à la poubelle. Et bien, quand il y a des hommes qui ne marchent pas, des handicapés, des hommes qui ont des problèmes, on les balance à la poubelle. On s'en fiche, on ne les veut pas. Vous savez de quoi je parle, hein ? C'est prégnant dans le monde. Il n'y a pas que les nazis qui ont fait ça. On fait encore aujourd'hui. Quand on fait un dépistage prénatal, on regarde un embryon. Ah bah lui, il a trop de problèmes. On est de plus en plus dans cette logique-là. Je veux choisir mon enfant, je choisis sa couleur de cheveux, je veux le modeler à mon gré, selon ce que je veux. Et s'il ne me plaît pas, bah, je le balance. Tant pis, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ? Donc même dans le rapport de l'homme à lui-même, il y a quelque chose de vicié dans cette logique de domination absolue. Et puis dans la question de l'économie aussi, parfois ça peut être lié, je m'en foutisse par rapport à l'écologie, au fait qu'on a une confiance excessive dans l'économie. On se dit, de toute façon, oui, certes, il y a beaucoup de problèmes actuellement, mais il y a eu des problèmes dans le passé, on les a réglés par des nouvelles inventions, etc. C'est bien d'être optimiste et d'avoir de l'espérance, mais parfois cette espérance, elle peut être excessive. Je préfère pas régler le problème d'aujourd'hui, parce que de toute façon, on va trouver des solutions, les scientifiques travaillent, ils vont finir par trouver quelque chose. Ou alors l'économie, si on laisse l'économie se gérer elle-même, ce qu'on appelle le libéralisme. Il y a un bon libéralisme et un mauvais libéralisme, mais en tout cas, il y a un libéralisme extrême qu'on peut appeler l'ultra-libéralisme, c'est l'économie va régler les problèmes toute seule, en fait. Si on laisse l'économie, si on met aucune règle, tout va s'arranger, quoi. La répartition des richesses va se faire naturellement, etc. Ça, on a bien vu que ce n'est pas vrai. Si vous êtes intéressé un peu à ces questions, la crise de 2008, etc., on montrait, quand on sait l'économie livrée elle-même, ça ne marchait pas trop pour améliorer la situation. C'est une manière, en fait, de se déresponsabiliser. Voilà le premier excès qui vient de l'égoïsme et de l'individualisme. Deuxième excès, plutôt du côté justement de l'écologie, c'est si l'homme est un danger pour la création, si l'homme est avant tout une menace, je supprime l'homme pour sauver la nature. Là, vous avez différents degrés, mais c'est des idées qu'on entend très souvent. Le niveau soft, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Puisqu'il y a trop d'hommes sur Terre, puisque les hommes détruisent la création, il faut arrêter de faire des enfants ou faire moins d'enfants. Comme ça, vous avez des milliardaires américains qui financent des programmes. Par exemple, la fondation de Bill Gates, là, il dépense des millions de dollars, il va donner aux pays africains, il va distribuer plein de moyens de contraception en disant aux Africains, faites moins d'enfants, vous faites trop d'enfants. On ne peut pas supporter le fait que vous fassiez beaucoup d'enfants, donc faites-en moins. Vous voyez ? C'est très présent dans notre société aujourd'hui. On fait trop d'enfants. D'ailleurs, souvent, on accuse les chrétiens. Vous n'avez pas honte de faire 8 enfants ? Non, vous n'avez pas honte. Vous détruisez la planète. Vous voyez ? Ils nous culpabilisent comme ça. Alors, il faut bien réfléchir à ça. Quelle est l'idée derrière ? Eh bien, ça, le pape François, en fait, il y répond dans la Laudato si. C'est très intéressant. Il dit que les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas envie de changer leurs habitudes. C'est vrai que dans notre monde occidental, plutôt riche, on a tendance à gaspiller beaucoup de choses. On a une consommation excessive, on détruit la planète plus que les pays pauvres. Mais la solution, ce n'est pas de faire moins d'enfants, parce que la Terre, elle a la capacité de nourrir beaucoup plus de milliards d'hommes qu'il y en a actuellement. La solution, ce serait de changer nos propres habitudes. Donc le fait de dire aux autres, faites moins d'enfants, c'est une manière de, en fait, de ne pas vouloir changer nos habitudes. De ne pas vouloir changer nos habitudes de consommation, de destruction de la planète, etc. C'est pour rester tranquille, en fait. On culpabilise les autres. Nous, on ne fait pas d'enfants parce qu'on est un peu égoïste. Et puis, on ne change pas nos habitudes. Vous voyez l'idée derrière ? C'est très intéressant ce que dit le pape François. Ensuite, y a des niveaux quand même plus durs, plus extrêmes. Vous avez des courants de pensée qui se répandent de plus en plus, qui disent que l'homme est à égalité avec les animaux. Tuer un animal, c'est aussi grave que tuer un homme. Ils ont perdu le sens, justement, comme ils ne croient souvent pas en Dieu, ces gens-là. Ils ont perdu le sens de la dignité particulière de l'homme fait à l'image de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par la Bible. Ils disent que l'homme est à égalité avec les animaux. Donc, si l'homme est à égalité, il vaut mieux détruire les hommes, il vaut mieux supprimer les hommes, parce que les animaux, eux, au moins, ils ne détruisent pas la planète. Vous voyez ? C'est très présent. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui pensaient ça. Ensuite, du coup, l'extinction de l'humanité serait préférable. Et enfin, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça vaut le coup d'y réfléchir aussi, c'est cette histoire de divinisation de la Terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Avatar, mais s'il y a un peu cette idée-là dans Avatar, c'est... Si vous voulez, avant la Bible, avant les Juifs, avant que Abraham reçoive la parole de Dieu, dans toutes les civilisations, on divinisait tout ce qu'on voyait. Le soleil, c'était un dieu. La lune, c'était un dieu. La foudre, il y avait un dieu dans la mer. Il y avait des dieux partout, parce que tout ce qu'on ne comprenait pas, on le divinisait. Et puis, il y a Abraham qui a reçu la parole de Dieu. Et les Juifs qui commençaient à dire, mais non, le soleil, ce n'est pas un dieu. Le soleil, c'est une lampe. Le dieu, il a créé tout le monde entier. Okay ? Donc, en fait, par ce processus-là, petit à petit, ils ont désacralisé la nature. Avant, les gens, les peuples, avant le peuple juif, les peuples avaient une vision sacrée de la nature. Oula, la nature, on ne va surtout pas essayer de comprendre ses lois, de comprendre comment elle marche, ce que c'est des dieux, je ne comprends pas. Et les Juifs, ils ont dit, mais non, il y a un dieu qui a créé tout ça, et donc je peux essayer de comprendre la nature. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce processus beaucoup plus loin, où on a complètement désacralisé la nature, on a compris beaucoup de lois qui la régissaient, etc. Et on se met à la détruire. Et donc, il y en a qui vont un retour en arrière, en disant, mais non, la nature, c'est un absolu, il y a la déesse Gaïa, on entend parler. Vous voyez, dans Avatar, il y a une espèce d'arbre là, qui redonne la vie à ce gars. Vous voyez, une espèce de vision un peu, justement, où la nature redevient sacrée, mais sacrée, pas au sens rationnel, quoi. Ça devient un peu, on retourne à un espèce d'irrationnel dans le rapport à la nature. Donc ça, c'est une vraie régression. Parce que depuis justement le peuple juif, depuis que Dieu s'était révélé, on était arrivé à désacraliser la nature. Après, on est peut-être tombé dans un excès où on s'est mis à la mépriser. Mais vous voyez, là, on est en train de revenir en arrière dans cette espèce de divinisation de la terre, au prix de la valeur de l'homme. C'est ça qui est grave, c'est que c'est pas juste une idée philosophique, c'est qu'après, on dit, si la terre, elle est divine et que l'homme la détruit, il faut détruire l'homme. Alors, du coup, qu'est-ce que choisir entre ces deux extrêmes ? Comment se positionner en tant que chrétien là-dedans ? Eh bien, nous allons parler de ce qu'est l'écologie intégrale, dont vous entendez beaucoup parler. C'est la grande phrase du pape François. Écologie intégrale, ça veut dire quoi ? Quand il dit « tout est lié », qu'est-ce que ça veut dire ? On va commencer par les premiers principes que je vous ai déjà dit. La terre nous est confiée par Dieu. Toute créature a de la valeur, mais l'homme a une valeur particulière. Là aussi, dans le rapport aux créatures, aux animaux, il y aurait deux extrêmes. Le premier extrême, ce serait de dire « les animaux sont à égalité avec les hommes ». Quand on tue un homme, c'est aussi grave que quand on tue un animal. Quand on tue un animal, c'est aussi grave que quand on tue un homme. Et l'autre extrême serait de dire « mais non, on s'en fout complètement, des animaux, on peut faire ce qu'on veut avec, peu importe, c'est de la matière qu'on peut modeler à notre gré ». Ça, c'est aussi un excès dans notre société. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos, je sais pas, sur les abattoirs, sur les élevages intensifs, etc. C'est quelque chose de choquant, la façon dont on traite les animaux. Il y a une espèce d'industrialisation, on les traite comme si c'était des objets. Non, les animaux, ce n'est pas des objets. Ils ont quand même une dignité, vous voyez. Donc, il faut toujours arriver à trouver la ligne de crête entre deux excès. Les animaux, ils ont une valeur, ils ont une dignité. On ne peut pas en faire n'importe quoi, mais on peut quand même les manger. On peut les tuer pour notre nourriture, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais là, et l'homme, il a une valeur particulière. Il est au-dessus, il a une dignité parce qu'il est à l'image de Dieu. Okay ? Et donc, bien sûr, ce que vous avez compris aussi, c'est que pour sauver notre planète, le combat pour sauver la planète et le combat contre le péché, le combat de la conversion personnelle, le combat entre le bien et le mal, en fait, tout ça, c'est lié, quoi. On ne peut pas dire « je veux sauver la planète » et dire « moi, ma vie morale, ça regarde que moi, je m'en fiche ». J'ai déjà dit tout à l'heure, mais je redis, c'est important. C'est lié. Quand vous convertissez personnellement, quand vous luttez contre votre propre égoïsme, quand vous luttez contre votre désir de posséder les autres et de les dominer, ça contribue aussi à l'amélioration générale de l'équipe dans notre monde. Ça va, c'est pas clair, tu fais une tête bizarre là. D'accord. Ok, sinon tu me demandes. Hein. Ok. Donc quand le pape dit tout est lié, défendre la nature, défendre le pauvre et défendre l'homme. Vous avez vu sur la vidéo, il y avait une image d'une plante, puis après il y avait une image d'un pauvre qui était assis dans la rue, etc. Ce que dit le pape justement, c'est ça, c'est que le combat pour sauver la planète, c'est pas seulement de lutter contre les OGM là, et faire du recyclage, c'est d'abord même à la source de lutter contre le péché dans notre propre vie, hein, dans notre propre vie. Après, effectivement, ça, ce qui découle, c'est qu'on va avoir une consommation plus responsable, etc. On va y revenir, mais à la source, c'est lutter contre le péché et protéger l'homme en général, puisque l'homme fait partie de la création. L'homme, c'est pas un ennemi de la création, il est dedans, l'homme. Donc protéger l'homme en général, aider les pauvres, etc., tout ça, c'est lié. C'est un même combat, en fait. Alors, du coup, et moi dans tout ça? Alors là, malheureusement, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller assez vite, mais je vais ouvrir des portes qui après seront sûrement des sujets de discussion dans vos petits groupes. Parce que là, pour l'instant, j'ai donné quand même des idées assez générales. Maintenant, comment nous, on peut changer, on peut essayer d'évoluer dans notre rapport à la création, on peut mieux la respecter, etc. Eh bien, vous savez, on vit dans une société de consommation, c'est comme ça, qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais parfois, on peut être pris dans une espèce de logique un peu malgré nous, comme c'est la logique un peu dominante dans notre monde. Et c'est important de t'entendre, de se poser, de prendre un peu de hauteur pour voir comment on pense, comment on vit, comment on consomme, etc. Quelle est la vision du bonheur, par exemple, qui est présentée dans notre société? Bah, très souvent, dans notre société, il y a plein de confusions par rapport au bonheur. On dit le bonheur, c'est un terme qui est très présent dans les publicités, par exemple. Bah, plus vous consommez, plus vous serez heureux. Plus si vous avez l'iPhone 12, vous allez enfin être super heureux. Sauf que quand vous recevez l'iPhone 12, bah, 6 mois après, il y a le 13 qui sort, et puis votre meilleure copine, elle a reçu le 13, donc vous êtes jalouse, vous êtes malheureuse. Voyez, donc on nous présente une vision du bonheur qui se limiterait à la consommation. On sait bien au fond de nous que c'est un piège, mais souvent on se fait avoir parce qu'on est dans une espèce d'ente. Enfin, on est tellement envahi par cette mentalité, parfois on se fait avoir, quoi. Donc c'est important de prendre de la hauteur. Aussi, le rapport entre le bonheur et le plaisir. Vous serez heureux si vous avez un maximum de plaisir. Bah ça. Sur le coup, on se fait parfois piéger par cette idée, mais au fond, on sait que ce n'est pas une idée qui est juste. Il y a des gens qui ressentent énormément de plaisir dans leur vie, mais ils sont profondément malheureux. Ça n'a vraiment pas l'air de t'intéresser, ce que je dis là. Non. Donc, il y a des gens qui ressentent beaucoup de plaisir, mais qui, au fond, sont profondément malheureux. Et d'ailleurs, ils sont d'autant plus malheureux qu'ils vont essayer de chercher de plus en plus de plaisir pour oublier qu'ils sont malheureux. À l'inverse, il y a des gens qui ne ressentent pas beaucoup de plaisir à chaque instant, chaque journée, mais qui, au fond d'eux-mêmes, sont heureux. Vous voyez, c'est la question du bonheur. En fait, si vous voulez, dans notre société, c'est facile de se faire emporter par un espèce de courant où on dit le bonheur, c'est de consommer un maximum, c'est de vous faire plaisir un maximum, c'est de dominer et de faire ce que vous voulez de votre corps, de la terre, de consommer un maximum, etc. Donc, on peut facilement se faire avoir, et tout ça, c'est lié à la question. Là, vous voyez le lien entre le rapport à la création, à la planète, et la vie morale, le combat entre le bien et le mal. L'égoïsme, c'est ce qui entraîne justement parfois des attitudes destructrices. Il y a aussi le rapport au temps. On est la génération Amazon. Amazon, un clic, 24 heures après, ce qu'on a acheté, ça arrive. Ça, c'est incroyable. Du coup, on est de plus en plus impatient, notre génération. On a envie d'avoir tout de suite, tout le temps. Et ça, ça c'est nouveau dans notre société. Avant, les gens, c'était la plupart des gens déjà, c'était des agriculteurs, donc ça, ils attendaient 6 mois avant d'avoir le fruit de la terre, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais du coup, ça change notre rapport aussi au réel, quoi. On a envie d'avoir tout de suite. Et aussi avec les gens, on veut avoir tout de suite dans nos amitiés. C'est aussi une logique de consommation, vous voyez. Et ça peut entraîner justement une attitude par rapport à la création qui n'est pas bonne. On se met à mépriser la création parce que si elle ne nous produit pas tout ce qu'on veut tout de suite, eh ben alors on la balance. Ou alors, une fois que quelque chose est usé, tout de suite, on le jette. Vous voyez, ça y est, j'ai les moyens d'acheter un nouveau smartphone. Mon ancien smartphone, il marche encore. Mais tant pis, je m'en fous. Comme j'ai les moyens, j'en achète un nouveau. Et l'autre, je le jette à la poubelle. Sauf qu'après, il y a toute une chaîne de conséquences. Les smartphones, ils sont faits dans les batteries. Il y a des métaux rares, etc. Ça crée la recherche des métaux rares, ça crée des guerres en Afrique, en Chine, etc. Ça crée des conflits énormes. Donc, le fait d'en consommer, d'en jeter un maximum, eh bien... À long terme, disons, ça a un impact sur la création dans l'ensemble. Donc vous voyez, une décision personnelle a un impact général. Et le fait de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau smartphone? Au fond, il marche encore le mien, ça ne peut pas attendre un peu. C'est tout bête, hein, c'est des questions, vous voyez, c'est des questions qu'on peut se poser tous les jours dans plein de choses, quoi. Donc, vous voyez, il faut réfléchir souvent au lien entre mes actions concrètes et l'écologie. Souvent, on me présente des grands principes écologiques, mais en fait, c'est difficile d'appliquer ça dans le réel. Moi, je vous donne des petits exemples dans le réel, justement. Alors, quoi d'autre? Le gaspillage. Et tout ça, j'ai marqué des frustrations parce que la génération, notre génération de consommateurs qui mélangent plaisir, qui confondent plaisir et bonheur, qui confondent consommation et bonheur, on est une génération de frustrés. Parce que quand on consomme, ça, au fond, ça ne nous rend pas heureux. Même le maximum de plaisir, plus on a de plaisir, ça ne nous rend pas de plus en plus heureux, au fond. Donc on est au contraire de plus en plus frustrés, on veut toujours plus. C'est comme avec l'argent, les gens qui sont riches, ils veulent toujours plus d'argent. Vous voyez ? C'est pareil un peu quand on consomme, on veut consommer encore plus. Quand on a du plaisir, on en veut encore plus. Et donc, finalement, c'est une spirale, une sorte de spirale infernale, quoi. On est de plus en plus frustré, de plus en plus malheureux, alors qu'on cherchait à être heureux. On se fait un peu avoir par cette société. C'est pour ça que ça vaut le coup de prendre un peu de hauteur. Alors, l'idée, j'aimerais aussi dire quelque chose d'important, c'est que souvent, dans les discours, quand on entend des discours sur l'écologie, c'est des discours qui nous font culpabiliser. C'est-à-dire, on se dit, ah, mais je suis trop nul, en fait, je respecte rien, etc. Et en fait, ça, c'est pas du tout, ça a aucun fruit. Soit, en gros, du coup, si les discours nous font culpabiliser, on a deux réactions possibles. Soit on se dit, je vaux rien, je suis une merde, donc ça sert à rien ce que je fais, et je fais que du mal. Ou soit on se dit, non, j'ai pas envie de culpabiliser, alors je m'en fous. Donc la culpabilisation, c'est un piège aussi. La culpabilisation, ça nous empêche de réfléchir et de changer. Donc là, l'objectif de Stopo, c'est pas de vous faire culpabiliser, c'est de vous faire réfléchir, et de vous responsabiliser, de vous rendre compte que, quand on réfléchit, on se rend compte que nos actes ont des conséquences. Quelles sont les conséquences de mes actes? Alors, voilà, pas de culpabilisation, mais une responsabilisation. Ça vaut le coup de réfléchir à ça. Comment je peux essayer d'être plus cohérent comme chrétien? La création m'est confiée par Dieu. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. Comment je peux essayer de la respecter un peu davantage? Et ça se fait par des tout petits actes. Par exemple, moi j'en sais rien, mais le gaspillage. Aussi, on dit il y a trop d'hommes sur Terre. Mais vous savez qu'il y a un tiers de la nourriture dans le monde qui est jetée. C'est quand même incroyable, le gaspillage dans les sociétés, dans les pays du Nord. Hein, c'est pas dans les pays pauvres, ça. Donc comment, vous, à votre échelle, personnellement, vous pouvez réduire le gaspillage général? J'en sais rien, en finissant votre pain à la cantine. Ça peut être un tout petit truc, mais c'est tout bête. Mais votre plateau à la cantine, vous ne le balancez pas avec les trois quarts pleins, quoi. Ce que vous prenez, vous le mangez. C'est un petit acte tout bête. C'est une petite habitude à changer. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut que vous fassiez chacun, mais à vous de réfléchir. L'objectif, c'est pas de culpabiliser, c'est de se responsabiliser. Donc, vous avez compris, défendre l'homme en général, faire du bien à un pauvre dans la rue, c'est un acte aussi écologique, au sens de l'écologie intégrale. Se convertir, aller se confesser, lutter contre son propre péché, contre son égoïsme, contre son individualisme, c'est un acte qui contribue au bien général. Vous voyez ? Il y a des périodes, d'ailleurs, dans l'année, quand on est chrétien, la période du carême, par exemple, c'est une période où on essaye de faire un peu des efforts sur la façon dont on consomme, dont on mange, etc., pour réfléchir un peu, pour prendre un peu de hauteur, pour nous montrer qu'on est libre, qu'on n'est pas les esclaves de toutes nos pulsions et de nos désirs, comme certaines personnes dans notre société voudraient qu'on le devienne. On prend un peu de hauteur et on essaye justement de voir si on est toujours libre, de restreindre un peu nos désirs, pour pas vivre au gré simplement de nos pulsions, vous voyez. C'est comme ça qu'on construit notre liberté. Alors, voilà. Alors ensuite, le troisième point, c'est peut-être le point le plus important et le plus difficile à expliquer, mais c'est la sobriété. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, je ne sais pas si vous trouvez que ce mot il est attirant ou pas, mais il y a un vrai bonheur à la sobriété. Je l'ai dit, plus on consomme et plus on se laisse avoir par cette spirale de consommation, de maximum de plaisir, etc., plus on est malheureux au fond de nous. Alors que quand on apprend à prendre du recul sur les choses, à ne pas être esclave de nos passions, de nos pulsions, de nos désirs, on devient déjà un homme libre. Et puis on peut même y trouver un certain bonheur, à trouver le vrai bonheur justement. Trouver, mais qu'est-ce qui au fond va vraiment me rendre heureux dans ma vie? Est-ce que c'est de consommer un maximum? Est-ce que c'est de me faire plaisir un maximum et de céder à tous mes désirs, à toutes mes pulsions? Non, parce que toute notre vie, on aura des désirs qui iront dans tous les sens. L'homme libre et l'homme heureux, c'est celui qui arrive à faire le tri dans ses désirs et à ne pas céder à tous ses désirs justement. Sinon, l'homme qui cède à tous ses désirs, il reste un esclave de ses désirs et surtout il fait aucun choix dans sa vie, il construit rien parce qu'il part toujours dans tous les sens. L'homme libre, l'homme qui arrive à construire son bonheur, c'est celui qui arrive à faire des renoncements, pour son vrai bien, pour un projet qu'il a au fond de son cœur, etc. Vous voyez ? Ça, c'est lié à, la, à cette question de la consommation, etc. Et donc, c'est un homme, plus on est sobre, plus on peut arriver à une certaine liberté. Cette sobriété, il y a une certaine joie dans la sobriété. Et le chrétien, nous les chrétiens, on peut être des témoins de ça. On peut être des témoins par des petits gestes, par plein de petits gestes. On peut être aussi savoir jouir des choses les plus simples. Voilà. Alors, conclusion. Faut-il sauver les pingouins ? Eh bien, la création nous est confiée par Dieu. On ne la domine pas, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau même, c'est quelque chose qui nous est confié, qui est précieux, qu'on doit protéger. Chacun de nous à notre échelle. Il y a les questions générales, mais vous à votre échelle, chacun de vous, comment vous pouvez faire pour la respecter un peu mieux, puisqu'elle vous est confiée par Dieu, qu'elle a une valeur. Voilà, c'est ça que c'est la réflexion qu'il faut mener. L'homme est le sommet de la création. Dieu lui confie et Dieu lui dit, bah, vous dominerez, tu domines, enfin pas tu domineras, mais tu gères la création en bon intendant. Voilà, tu es l'intendant de la création, prends-en soin, je te la confie. Mais l'homme a quand même une valeur, une dignité supérieure. Quand on réfléchit au fait que la création, c'est quelque chose qui nous est confié par Dieu, déjà ça nous aide à nous positionner par rapport à elle. Donc chacun de nous, on a une conversion à faire, une réflexion à mener sur les impacts de toutes nos actions. Et l'objectif, je rappelle, encore une fois, j'insiste, c'est pas de culpabiliser. C'est plutôt de petit à petit de gagner en responsabilité, de se rendre compte des effets de nos actions. Parce que quand on... Enfin, on culpabilise quand on nous donne une loi. On nous dit tu dois recycler. Bah oui, mais toi, tu dois recycler. Si tu recycles pas, t'es un méchant. T'es quelqu'un de pas bien. Bah ça c'est super, mais ça sert à rien quoi. On n'est plus des enfants. On est grand. Il faut essayer de comprendre pourquoi on fait ça. Donc oui, bien sûr, il faut sauver les pingouins. Mais il faut réfléchir en amont à pourquoi on le fait, parce que ça nous est confié par Dieu. À comment on peut être plus responsable dans notre vie. On a tous un chemin à faire, hein, vous comme moi. Comment je peux être plus responsable dans mon rapport à la création ? Comment je peux la respecter un peu mieux ? Et quand on se convertit dans notre rapport à la création, à la consommation, au plaisir, etc., ça nous aide aussi dans nos rapports aux autres. Le tout est lié, c'est ça. Quand on est un consommateur de biens, on se met aussi à consommer les autres, à consommer nos amitiés, à consommer dans l'amour, à consommer, on en parlait tout à l'heure dans le sermon. On devient un consommateur, je prends, je consomme, je jette. Ça marche aussi dans l'amour, malheureusement. Vous voyez, quand je dis que c'est prégnant dans notre monde, c'est une idée prégnante sur laquelle on se fait parfois avoir. C'est pour ça que ça vaut le coup d'y réfléchir. Et le combat contre ça, la conversion, c'est aussi un ensemble. Si vous convertissez dans le rapport à la création, vous arriverez mieux à vous respecter vous-même et à respecter les autres. Vous voyez ? Ça veut dire ça. C'est ça que ça veut dire, tout est lié. Alors, maintenant, puisque parfois on peut avoir une vision un peu caricaturale de l'écolo chrétien qui vit dans un hameau au milieu de la forêt en mangeant des radis, je voudrais vous donner un exemple d'écologie intégrale que j'ai trouvé assez intéressant, assez beau. Peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi je vous montre ces vidéos, mais petit à petit, en regardant les images, laissez-vous porter et vous allez voir que c'est assez impressionnant. On en parle après.
Pardon ? 1, 2, c'est bon.
Vous avez peut-être compris pourquoi je vous ai montré ça, peut-être pas. En fait, le Chénacolo, moi j'y suis allé à Lourdes, il y en a plusieurs en France, c'est assez impressionnant. Donc ils récupèrent, vous avez vu, des gars qui sont cabossés par la vie. Et en fait, comment ils guérissent ? Ils guérissent par le rapport, ils rétablissent un rapport au réel. C'est des gens qui sont blessés, qui ont plein d'addictions à la drogue, à la pornographie, à tout ce que vous voulez. Et en fait, ils guérissent en retrouvant un ancrage dans le réel. Vous avez vu, ils font de la menuiserie, ils cultivent leur potager, ils traient les vaches, etc. Et c'est comme ça qu'ils guérissent. Et vous avez des gars qui arrivent démolis, mais ruinés, qui n'ont plus rien, et qui ressortent des hommes. Ils ressortent debout. Moi, j'en ai rencontré. C'était beau, c'était à pleurer. Déjà, ce témoignage, c'est impressionnant. Mais des gars qui avaient vécu toutes les horreurs possibles et imaginables dans une vie. Et après 5-6 ans au Chénacolo, à vivre comme ça une vie toute simple, bien sûr, avec beaucoup de prières, etc., mais aussi une reconnexion avec le réel, avec la nature, etc., et bien ils arrivaient à guérir de leurs maux, de leurs addictions terribles, etc. Ils arrivaient à se re-socialiser, à rentrer à nouveau en relation avec les autres, normalement, etc. Donc c'est ça, en fait, l'écologie intégrale, vous voyez. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein d'exemples, mais c'est pour dire que, en fait, on est une génération qui a souvent perdu le contact avec le réel, qui veut tout tout de suite, qui veut tout consommer tout de suite, qui veut un maximum de plaisir. Et ça nous blesse profondément. On devient des esclaves de nos pulsions, de nos désirs, etc. Et le rapport à la création, réfléchir à ce rapport qu'on a, on est blessé de différentes manières, chacun de nous, on a notre histoire, mais réfléchir à ce rapport qu'on a, avoir retrouvé un certain quand on est vraiment blessé, retrouver un certain contact avec le réel, avec la patience, avec le travail manuel, etc., ça peut nous guérir des pires maux, des pires addictions, des pires désocialisations qui existent dans ce monde. Donc c'est un exemple, vous avez vu, d'écologie intégrale. Et bien sûr aussi, c'est une religieuse qui a fondé cette communauté, le Chénacolo, une sœur qui s'appelle Sœur Elvira. Donc tout ça, c'est fondé sur la foi. C'est leur rapport à Dieu qui est la racine de tout, avec après le contact au réel, le respect de la création, etc. Eh bien, il reste 5 minutes pour des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis allé assez vite, j'ai parlé de plein de sujets différents. Peut-être que c'est un peu embrouillé dans votre tête, mais est-ce que vous avez des questions? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique? Eh bien, quand on lit l'encyclique du pape François, moi je lui fais confiance, je suis chrétien, je fais confiance au pape François. Au début, je pense qu'à votre âge, j'étais un peu climato-sceptique, moi. Je me disais, tout ça, on nous bassine un peu pour nous faire culpabiliser. Mais quand on lit l'ouvrage du pape François et qui cite beaucoup de scientifiques, d'études sérieuses, etc., je pense que c'est un fait qui est réel. Il y a vraiment un réchauffement et que pour une part, il est vraiment lié à l'activité des hommes. Et il décrit toute une série de problèmes, de catastrophes, etc. Le truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on s'en rend moins compte parce que on est protégé, quoi. On a ce qu'il faut à manger, on a un climat qui est correct, etc. Mais dans les pays du Sud, dans les pays vraiment pauvres, ils subissent les effets de tout ça, quoi, beaucoup plus que nous. Donc ils s'en rendent compte vraiment, eux. Donc nous, on est un peu protégés, on peut être climato-sceptique en France, mais quand on habite en Tanzanie, je pense que c'est plus difficile d'être climato-sceptique parce qu'ils voient bien que tout est en train de se dérégler. Après, le danger, quand on parle du réchauffement climatique, etc., c'est la culpabilisation. Et dire, ah ben, les hommes sont pourris, il faut détruire les hommes. Donc vous avez compris, ça c'est une mauvaise réaction. Vous voyez ? La question, c'est la responsabilisation. Qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire pour essayer de changer mes habitudes, etc., petit à petit. Voilà. Vous avez d'autres questions? D'ailleurs, j'ai répondu à ta question, ouais, c'est bon. Okay. Oui. Tous les déséquilibres sont à cause du déséquilibre dans la foi. Bah, c'est sûr que quand on perd la foi et quand on perd le sens du péché, le pape François, il en parlait encore récemment, comme tout est lié, quand on perd le sens du péché et du mal qu'on peut faire aux autres, à la création, etc., ça peut exacerber l'individualisme et l'égoïsme et le fait de vouloir tout consommer, tout dominer, tout détruire. Donc, alors que quand on retrouve le sens de Dieu, en principe, les meilleurs écologistes, c'est les chrétiens, parce qu'ils ont un sens de Dieu, ils savent que la création, elle leur est confiée, ils peuvent pas en faire n'importe quoi. Ils savent qu'ils ont un combat à mener contre le mal. Ils savent qu'ils sont, en temps, ils sont pécheurs. On sait qu'on est pécheurs, qu'on commet du mal. Et donc, on a à se convertir, nous. Donc, on a à changer les habitudes, qu'on a à lutter contre le mal en général dans notre vie. Et donc, on est les meilleurs écologistes si on est vraiment chrétien. Vous voyez ? Donc, effectivement, le manque de foi, ça a exacerbé le désastre écologique aussi, ouais. La désocialisation, le mépris de l'homme contre l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Ouais. Quand on ne sert pas Dieu, vous savez, hein, c'est le curé d'Ars qui disait ça, si les gens arrêtent d'adorer Dieu, ils adoreront les bêtes. Quand on n'adore plus Dieu, ben on trouve d'autres idoles. Hein. On est tous comme ça. Hein. Donc les idoles, c'est l'argent, c'est le plaisir, c'est moi-même, c'est... vous voyez ? Donc quand on adore Dieu, ben, toutes les choses reviennent à leur place. On sait que l'homme a une dignité particulière, qu'il est le sommet de la création, mais on sait aussi que la création nous est confiée, qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Voilà. D'autres questions ? Bon, bah c'est parfait. Très bon timing, on va aller dire les complis.